Bonjour Michel Baudet.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Prévert.
Merci de me recevoir.
Circonstances exceptionnelles, projet exceptionnel, et c'est vous qui êtes à l'origine de cette initiative.
Oui, l'idée m'en est venue parce que cette année 2024, ça va être les 80 ans de la libération. Beaucoup d'actions sont faites dans différents endroits. Et moi, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir collecter la mémoire de tous ces anciens qui étaient enfants pendant la guerre et qui pouvaient encore nous raconter des traits de leur enfance, de ce qu'ils avaient vécu. Je sais que quand j'étais au conseil municipal, avec le conseil municipal enfant, on avait déjà fait quelque chose un peu dans ce genre-là, avec des témoignages de personnes qui avaient été enfants, et les enfants avaient adoré. Les jeunes du conseil municipal avaient adoré écouter, avaient posé plein de questions. Et monsieur Domain était déjà là. T'es déjà présent à cette séance. Et puis quand là j'ai eu envie de monter ce projet avec vous, eh bien j'ai repensé à monsieur Domain, parce que c'est vrai que voilà, d'abord c'est une figure fléchoise, les parents avaient un garage, ils ont forcément, les Allemands les ont beaucoup fréquentés, dans le sens où ils faisaient appel à leur service de mécanicien. Donc voilà, ça me semblait logique de commencer par quelqu'un voilà qui était connu sur la flèche.
Bonjour Michel Domain.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur, pardon.
Quel effet ça vous fait d'être la première personne choisie par Michel Baudet pour ce projet ?
Bah, écoutez, j'en suis tout à fait ravi, mais je ne m'y attendais pas. Oui, il est évident que j'ai vécu cette époque. J'ai la mémoire de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, et donc je peux en parler avec précision.
Est-ce que je peux vous demander votre âge aujourd'hui ?
92 ans.
Vous ne les faites pas ?
Oui, sans doute.
On vous le dit souvent ?
Oui, mais bon, j'ai cette chance, quoi.
C'est une grâce ?
C'est une grâce du ciel.
Voilà. Et nous, on est contents de vous avoir sur Radio Prévert, ouais. Pour raconter à la jeune génération cette histoire-là. Et avec Michel Baudet, on s'est dit que ce serait intéressant, à plus d'un titre, de recueillir des témoignages. Et ce qu'on va faire écouter aux auditeurs, c'est justement le récit que vous allez faire à la manière d'un conteur de cette histoire-là. Vous allez vous mettre dans la peau d'un conteur pour raconter cette séquence. Et vous la situez où ? Vous avez choisi une séquence particulière. Vous la situez aux alentours des années 40
1940-1944. Les Allemands ont occupé la France pendant 4 ans. J'ai connu les 4 ans d'occupation.
À cette époque, vous aviez quel âge ?
Eh ben, j'avais 10 ans.
10 ans ?
10 ans.
Et ça vous a marqué ? Vous avez gardé un souvenir impérissable de cette époque ?
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Parce que c'était insolite. Voir les Allemands, cette puissance étrangère chez nous qui dictait leurs conditions, nous n'avions pas vu ça avant. La vie n'était plus la même.
Insolite, dites-vous.
Insolite, oui.
Et à hauteur d'enfant, est-ce que vous vous souvenez des premières réactions à l'arrivée de cette puissance, comme vous dites ?
Alors, moi, je ne les ai pas vus arriver, car nous étions en Corrèze, nous avions quitté l'entreprise, comme beaucoup de gens, cédant à la panique générale, ce qui fut une erreur d'ailleurs, puisque la vie n'était pas concevable hors de chez soi, et il fallait bien revenir, et il fallait bien... retrouver notre maison, que chacun reprenne ses activités dans la mesure du possible, et que nous reprenions les usages de la vie chez nous. Et donc, nous sommes allés en Corrèze parce que ma mère était corrézienne, et que il y avait ce mouvement de panique, tout le monde partait, c'était... Ce n'était pas raisonné, en définitive. Et voilà, Il n'y a pas d'autre explication. Et donc, nous sommes revenus de Corrèze et les premiers Allemands que j'ai vus, c'est à la ligne de démarcation, puisque...
C'était quand ?
C'était en... Ça devait être au mois de septembre 40, je pense.
Septembre 1940.
Oui, septembre 1940. Puisque nous étions partis quelques jours avant le 18 juin. Le 18 juin, j'ai entendu le discours du général de Gaulle chez ma grand-mère en Corrèze, à Usherche en Corrèze. Et toute la famille était réunie autour du poste radio et nous écoutions religieusement ce général que nous ne connaissions pas. Et il y a eu une bouffée d'espoir qui est passée dans l'assemblée lorsqu'on a entendu cette voix autoritaire, cette voix persuasive. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, ça.
Même vous, le petit enfant de l'époque, oui, le général de Gaulle a eu un effet sur vous.
Bah, le général de Gaulle a eu un effet sur moi, c'est pourquoi j'ai été gaulliste toute ma vie.
Le lien est là, il n'y a pas de chaînon manquant.
Non, bien sûr.
Et donc, oui, vous alliez ajouter quelque chose.
Non, rien d'autre, non.
Et donc, Michel Baudet, Michel Domain inaugure donc ce cycle.
Oui.
Et Michel Domain, que j'ai attentivement écouté, moi j'ai eu le privilège d'écouter la première prise de son récit. Il va y avoir plein de belles choses qui vont être dites. Ses souvenirs, parce que c'est ce qu'il nous a précisé hors antenne. Ce sont mes souvenirs à moi, c'est mon témoignage à moi. Il m'a dit tout à l'heure, la vie a changé. Est-ce que vous avez eu des échos, vous, Michel Baudet, de choses dites ça et là par des gens comme Michel et d'autres sûrement qu'on va recevoir ici sur Radio Prévert pour faire ce travail de mémoire.
Oui, je me souviens quand on avait reçu ces anciens avec le conseiller municipal enfant. Je ne sais pas qui lequel avait raconté que quand il était enfant, il n'y avait pas de chambre à air pour mettre dans les pneus des vélos, et que pour pouvoir rouler en vélo, on mettait des bouchons en liège, on remplissait les pneus de bouchons en liège, et donc il roulait en vélo avec des pneus qui étaient chargés de bouchons en liège. Donc ça devait être quand même assez dur à rouler vu les vélos de l'époque. Ça, et je sais que les enfants là avaient posé plein de questions. J'ai une dame qui viendra de témoigner, qui était enfant dans la ferme de ses grands-parents et qui racontait quand les Allemands venaient chercher de la nourriture. Sa grand-mère faisait de la crème, du beurre, enfin bon, tout ce qui était intéressant à la campagne, et les Allemands venaient. Et d'ailleurs, elle me veut préciser qu'ils étaient assez réglo, on va dire, parce qu'ils payaient, ils réglaient leurs achats. Mais par contre, il n'était pas question de dire de refuser. Et voilà, c'était payé, mais la grand-mère n'avait pas le loisir de refuser de fournir les... Donc je suppose que ça devait être comme ça dans toutes les fermes, voilà. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a un autre monsieur qui viendra aussi raconter ses souvenirs.
Alors, Michel Domain.
Moi, ce qui m'a marqué aussi, je l'ai pas dit là, mais c'est...
Vous ne l'avez pas dit dans votre récit.
Non, je l'ai pas dit dans...
Mais vous nous le confiez ici.
Oui, je vous le confie ici.
On a bien fait de venir, vous voir.
C'est, hélas, l'arrestation de mes voisins, les boulangers, la famille Livet, Guy et Madeleine Livet, qui étaient résistants, qui ont dû être dénoncés et qui, un matin, vers 5 heures, se sont retrouvés dans une traction avant, celle de la Gestapo, pour être dirigés ensuite des interrogatoires assez désagréables, certainement, et ils ont été ensuite déportés en Allemagne.
Et vous les avez revus ?
Et nous les avons fort heureusement revus. Je dois dire que nous avons été très très marqués par cette chose-là. Quoi. C'est ce fait-là qui, C'est un fait d'une violence inouïe, quoi. Et la boulangerie a été dirigée par la maman de M. Livet, qui n'était pas jeune à l'époque. Elle a eu un très très grand mérite, cette femme, de continuer à assurer sa mission de distribution de pain, de mauvais pain, parce que à l'époque, la farine n'était pas de très bonne qualité.
Dans votre récit, vous n'avez pas mis l'accent sur les interactions familiales à cette époque-là. Est-ce que nous, on peut ici vous demander ce que vous disiez entre vous, même si...
Nous n'aimions pas les Allemands. Je dirais que là, au départ, il n'y avait pas forcément de haine, parce que les Allemands étaient polis, étaient convenables. Les choses se sont dégradées à partir du moment où ils ont essuyé des revers, notamment en Russie. Et là, ils sont devenus assez peu conciliants. Et donc là, on n'était pas très heureux de les voir arriver chez nous. Mon père avait dit « je ne veux pas travailler pour les Allemands ». Et de fait, on n'a pas réellement travaillé pour eux, sauf lorsqu'ils avaient une petite panne qui passait. Et ils avaient réquisitionné un garage en ville pour l'entretien de leur voiture. Et comme ils avaient réquisitionné toutes les Citroën, traction avant, car c'était les seules voitures qui les intéressaient.
Pourquoi ?
Parce que c'était une voiture extrêmement moderne. Et eux-mêmes, avec leur Mercedes, ils ne rivalisaient pas, notamment en tenue de route, car la traction était une voiture surbaissée. Et c'était la voiture d'avant-garde. Et les Allemands, techniciens dans l'âme, ont beaucoup apprécié cette voiture-là, il faut le dire. D'ailleurs, la Gestapo était équipée de traction avant, et je me souviens, cette Gestapo circulant dans cette voiture au rouge-jaune et qui roulait doucement en ville et qui épiait tout ce qui se passait. C'était assez désagréable comme sentiment, voilà.
Et justement, les sentiments qui vous animaient, quels étaient-ils ? Ambivalents ? Est-ce que, même si vous parliez d'espoir, après avoir entendu le général de Gaulle, vous êtes certainement passé par tout plein de choses, non ? En fonction de l'évolution du front, etc.
Oui, nous écoutions la radio anglaise et nous avions une carte murale chez nous, avec des punaises de différentes couleurs que nous placions pour préciser les avancées justement des troupes alliées qui avaient opéré la reconquête, mais puisque la reconquête elle s'est faite par l'Afrique en définitive. Et nous écoutions la radio anglaise tous les jours, même s'il y avait un brouillage qui était assez désagréable, mais nous réussissions quand même à entendre. Et il y avait notamment une émission qui s'appelait « Les Français parlent au français ». Elle était très intéressante. Vous vous souvenez, madame ?
Non, je ne me souviens pas, parce que là, j'étais pas née, moi, monsieur.
Ah bon, d'accord.
Mais si elle était née à cette époque, nul doute qu'elle écouterait cette émission.
C'est vrai, excusez-moi.
Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave.
Je suis dans mon action.
Mais bon, on a souvent entendu cette petite musique les Français parlent au français.
Oui, faites-le, parce que hors
antenne. Poum, 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 poum. C'était ça. Oui, et donc, voilà. Mais.
On ne va pas refaire l'histoire, puisque vous l'avez raconté et on diffusera ce récit. Mais j'imagine que vous attendiez à ce que les Alliés viennent le plus vite possible libérer.
Ah, bien sûr, bien sûr. Et lorsque les derniers Allemands sont partis,
oui.
Nous savions que les Alliés étaient pas loin. Et donc, les gens attendaient dans la rue. Et finalement, ils sont arrivés. Alors, les Américains, les gens criaient les Américains. Et en fait, il y a eu aussi la deuxième DB. Il n'y avait pas que les Américains. La deuxième DB est arrivée aussi. Et on était très contents. On a dit, les Français, ce sont des Français. Ceux-là sont des Français.
Ton grand moment d'histoire, et vous vous en rappelez comme si c'était hier, j'imagine. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît.
Alors j'ai même encore une autre histoire.
Oui, allez-y.
Notre voisin, en face de le garage, monsieur Renaudin, il s'appelait monsieur Renaudin, il avait une vieille Peugeot, et il voulait la remettre en route. Sauf que... il y avait des roues qui étaient crevées. Bon. Et donc, il est arrivé au garage avec ses pneus en disant il va falloir me remettre ça en état. Or, moi, à cette époque-là, j'étais un peu harpette au garage et j'étais dévolu précisément à la réparation des chambres à air. Et donc, j'avais mis... on utilisait un appareil qui vulcanisait les chambres à air à chaud. Et alors cet appareil fonctionnait à condition de mettre des plombs qui fondaient quand la chaleur était suffisante. Mais comme on n'avait plus de plomb, on mettait un tournevis pour bloquer la situation. Et moi, j'étais donc dévolu à ce travail, alors que tout le monde attendait les Américains, et que moi, j'étais privé de cette fête. Alors,
c'est pour la bonne cause.
J'avais donc mis mon appareil. Les Américains, je courais pour voir, et puis je m'y suis un peu attardé. Et la chambre à air, elle a grillé.
Alors vous pensez que vous êtes fait disputer.
Le voisin, il n'était pas content. Puis c'était pas quelqu'un d'assez facile et compréhensif.
Malgré le contexte, l'arrivée, la libération, il vous en a tenu rigueur.
Alors on a dû aller chez un vulcanisateur spécialisé pour faire mettre une très grosse pièce. Et finalement, les choses se sont arrangées quand même.
Tout finit bien.
Ouais.
Tout finit bien.
Voilà.
Voilà, c'est le cas de le dire. C'est ainsi qu'on va lancer ce cycle-là. Et je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber.
Bah, écoutez, je ne sais pas.
Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. toutes ces troupes, Gestapo, Wehrmacht et autres, ils logeaient où? Où est-ce qu'ils étaient cantonnés? Est-ce qu'ils étaient dans des... Est-ce qu'ils avaient réquisitionné? Parce que bon, les chefs avaient dû réquisitionner des bâtiments dans la flèche, mais les troupes, elles étaient où?
Alors, les troupes... alors, ils avaient réquisitionné, comme je vous l'ai dit, l'école Saint-Jacques, déjà. Oui. Hein, ils s'étaient installés... Grande rue, là, pour le mess des officiers ou sous-officiers, je ne sais plus. Mais je pense qu'ils avaient des casernements. Ils avaient construit des baraquements. Ils étaient très forts pour les baraquements. Ils avaient construit des baraquements en bois avec des toits en carton. Goudronné là, et il dormait là-dedans. Mais c'était assez mouvant parce que, au début, quand ils sont arrivés, c'était les vainqueurs. Ils n'avaient pas d'autre souci que de se promener à la Flèche, et ils faisaient un peu d'exercice, bien sûr. Et les choses se sont compliquées quand ils ont attaqué la Russie, parce que là, les uns et les autres, ils ne restaient pas très longtemps, ils venaient plutôt en repos, en troupes d'occupation, en France. D'ailleurs, paraît-il, les Allemands disaient « vivre comme Dieu en France
». Vivre comme Dieu en France.
Vivre comme Dieu en France.
Et une question en appelant une autre, Michel Domain, oui. Et le prix Tanné dans tout ce concert-là?
Le prix Tanné avait évacué les élèves, étaient partis en zone libre, et le prix Tanné était occupé par les Allemands. Évidemment.
Évidemment.
Le prix Tanné, c'était une caserne allemande. Et il y avait une guérite, devant la porte d'honneur actuelle du prix Tanné, il y avait une guérite avec une sentinelle. Et on n'entrait pas au prix Tanné comme ça, voilà. Donc il y avait un état-major, j'imagine, au prix Tanné, et puis tous les autres bâtiments étaient occupés comme caserne, voilà.
Alors, après toutes ces années, vu qu'il y a prescription maintenant, le jeune enfant Michel Domain de l'époque, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour s'illustrer, puisqu'il a eu cette sorte de message, je ne vais pas dire mystique, de la part du général de Gaulle, mais quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le jeune Michel Domain? Confidence pour confidence, hein, les autres n'écoutent pas.
Non, ce qu'on faisait, il y a deux choses que je faisais, moi. J'allais au ravitaillement avec ma petite bicyclette tous les jeudis, et j'allais collecter du beurre, des œufs, etc. Et non pas pour faire du marché noir, mais pour nourrir la famille, et nous envoyions toutes les semaines des colis aux cousins de ma mère qui habitait Paris et qui crevait de faim. Donc toutes les semaines, on leur envoyait du ravitaillement. Et d'ailleurs, à ce sujet, si j'ai encore une autre, à moins qu'on n'ait pas le temps. Hein. Alors, mes parents étaient concessionnaires Renault. Ce qui fait que un jour, il y a un inspecteur de Renault qui a téléphoné à ma mère, en disant: Madame Domain, si vous pouviez me rendre un service, nous mourrons de faim à Paris, je descendrai avec une valise, si vous pouviez nous trouver un certain nombre de choses. Et donc moi j'avais été spécialement au ravitaillement pour approvisionner ce monsieur, et il était à peu près 18h, 18h30, c'était l'hiver, il faisait nuit à cette heure-là. Et donc, toutes les victuailles étaient étalées sur la grande table de cuisine de mes parents. Et, alors, chose que nous n'avions pas pensé à faire, c'est à cacher. Il y avait une fenêtre qui donnait sur le prix Tanné, précisément. Et donc, on mettait un rideau, parce qu'il ne fallait pas, qu'il y ait de lumière pour ne pas
attirer l'attention.
C'était pour les avions, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de bombardement à la Flèche, mais c'était une consigne générale. Et c'était le blackout, dès qu'il faisait nuit, il ne fallait pas qu'il y ait de lumière pour ne pas... permettre aux avions anglais, si toutefois il y en avait qui passaient, de faire des repérages. Et donc, nous avions oublié de mettre cela. Et nous avons entendu... Alors, la porte du rez-de-chaussée n'avait pas été fermée. Et on a entendu dans l'escalier des bruits de un peu on s'est dit qu'est-ce qui monte. Ils ont frappé à la porte. En fait, c'était deux Feldwebel allemands qui avaient vu qu'il y avait de la lumière chez nous et qui venait nous prévenir qu'il fallait fermer. Et comme on n'avait pas fermé, ils nous ont mis une contravention, payable tout de suite. Et ils sont arrivés, il y avait sur la table, il y avait du beurre, des œufs, de machin. On était morts de peur. Eh bien, ils n'ont rien dit. Ils se sont contentés d'encaisser leur contravention.
C'était combien ?
Ils ont salué et ils sont partis. La Providence était avec nous encore ce soir-là.
La grâce, avez-vous dit.
Je ne savais pas qu'ils mettaient des contraventions quand les lumières...
Les gendarmes allemands étaient comme les gendarmes français, ils avaient leur carnet de contravention et ils faisaient la contravention payable tout de suite.
D'accord, et vous vous rappelez plus de ce que ça représentait ? Pas grand-chose ?
Je pense, on va peut-être une vingtaine de francs, de nouveaux francs, un truc comme ça, quoi. C'était pas anodin non plus, hein, parce que...
Dans le contexte, non.
C'était pas anodin non plus, hein.
C'est vrai.
Ça m'étonne pas, oui.
C'est vrai.
Oui, et voilà, donc... Bon, il pourrait y en avoir d'autres. J'ai aussi une autre chose qui m'avait marqué.
Laquelle ?
Ça, c'était vers la fin. Un camion s'est arrêté pour faire une soudure. Il partait en Normandie. Donc, le débarquement était fait. Et le chef de bord parlait très bien français. Et c'était un Allemand. Et il nous a dit, je vais aller me faire tuer en Normandie, mais c'est pas grave parce que toute ma famille a été anéantie lors du bombardement de Dresde. Et il y avait aussi un petit Allemand qui m'a fait signe, donc alors je le suis, et il parlait très bien le français. Alors j'ai dit, mais vous parlez bien français ? Il m'a dit, oui, je suis alsacien, j'ai été incorporé de force, et je n'ai pas le droit de parler français, je suis content de parler français avec vous. C'est marrant ça, et je me souviens très bien de ça, quoi.
Voilà. Et d'autres choses que vous raconterez aux auditeurs de Radio Prévert, Michel Baudet, c'est bien qu'on s'arrête là. Maintenant, vous avez une dernière question à poser à Michel Domain.
Non, peut-être qu'elle est non, je n'ai pas de question précise. Je pense que là, on nous a raconté pas mal de choses. Peut-être que la personne qui suivra racontera d'autres choses, d'autres événements.
J'espère.
Et puis, si M. Domain se rappelle d'autres choses, il pourra toujours revenir nous raconter ses souvenirs.
Je crois qu'on a fait le tour de la question parce que J'ai...
Je vous avais survolé...
Oui, je pense que j'ai survolé à peu près l'essentiel, hein, voilà.
Très bien. L'essentiel était dit par Michel Domain pour inaugurer ce cycle sur la libération, 80e anniversaire de la libération. Michel Baudet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette première, et on renvoie les auditeurs à
leur quartier.
À leur quartier, j'oserais pas.
Leur domicile.
on leur dit tout au moins d'écouter attentivement ce récit que vous allez faire de ce témoignage que vous nous avez si gentiment offert sur Radio Prévert.
Oui, parce que moi je pense que c'est essentiel de collecter toutes ces informations, toute cette mémoire. C'est vrai que nous, pour le souvenir français, c'est une de nos missions en première, la transmission, le devoir de mémoire, et il y a différentes façons d'exprimer son devoir de mémoire, et pour moi ça c'est un devoir de mémoire, c'est de collecter toute cette mémoire de personnes locales pour pouvoir expliquer après aux jeunes générations, parce qu'il ne faut pas oublier, voilà. On peut, On peut avancer, mais il ne faut pas oublier.
Et ça passera sur les ondes quand, ça
Bon, on va terminer l'émission et puis je vais vous dire quand ça passera.
Oui.
Merci beaucoup.
Ben, on va sauver alors là.
Ah non, non, non.
Vous mettez à la porte.
Non, non, je vais vous faire enregistrer une deuxième fois en vous rapprochant plus du micro.
Ah
vous,
non,
vous
ah
allez,
non.
Vous n'allez pas y échapper.
Ah non, non.
Mais bon, on peut faire des pauses si
oui,
vous voulez.
Oui, oui.
Pour que... Et puis je vais vous apporter de l'eau.
Oh non, 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 non.
Non, c'est bon
pas, non, ça
c'est
va,
bon.
Non, non.
Merci.
Tu veux peut-être pas autre chose que de l'eau.
Cette émission va bientôt se terminer. Et puis on va embrayer sur autre chose. Merci beaucoup, Michel Domain. Merci d'être venu nous parler de ce grand moment sur Radio Prévert. Et on espère que Michel Baudet nous aidera à trouver des gens qui sauront, comme vous, nous transmettre si bien tous ces précieux souvenirs qu'il faut garder, bien entendu. Merci à vous.
Justement, au sein de cette émission, j'espère que ceux qui vont écouter, bah, ça va provoquer des envies de venir témoigner. Au contraire, c'est un appel. Moi, je vais faire un appel. Ça va pas être l'appel du 18 juin, mais du 12 mars. C'est-à-dire que, voilà, tous ceux qui veulent venir témoigner de leur enfance à la Flèche pendant la période de la guerre, bah, pourront prendre contact avec moi. La collaboration avec le Maine Libre
aussi,
va, ouais, va permettre d'un article dans lequel il y aura mes coordonnées où je pourrai être joindre sans problème par téléphone ou par mail. Et au contraire, je serai ravie de rencontrer d'autres personnes.
Et on a décidé aussi qu'on élargirait, que ça ne s'arrêterait pas forcément qu'au territoire fléchois. Et que toute personne nous écoutant aussi du côté de Pont-Vallin, Le Lude, ou ailleurs, Aubigné-Racan, Mansigné, et j'en passe, peuvent également rejoindre le cercle avec Michel Domain et toutes les autres personnes qui témoigneront sur Radio Prévert. Merci à tous les deux et à bientôt sur Radio Prévert. Merci également à Jean-Christophe qui nous accompagnait du Maine Libre.